des mots pour le dire. Dominique de Michel, médecin et psychanalyste, et Simon Martin. La liste des phobies qui nous accablent semble sans fin, et si certaines peuvent faire sourire, comme, alors je vais prendre ma respiration, l'arachibutyrophobie, la peur d'avoir du beurre de cacahuète collé au palais, les phobies sont de véritables handicaps qu'il faut prendre très au sérieux. La taphophobie liée à la claustrophobie est la peur d'être enterré vivant. Si cette idée vous angoisse, chers auditeurs, surtout, surtout, ne regardez pas ce film.
Je vous en prie, aidez-moi, j'ai peur.
Moins vite, monsieur.
Au secours, aidez-moi, il faut que vous m'aidiez, j'ai tout. Envoyez-moi quelqu'un.
Allez, calmez-vous.
Je veux juste entrer chez moi.
Pouvez-vous me dire où vous êtes?
Je suis enfermé dans une boîte. Je suis enterré dans un cercueil et... Allô?
Ils vous disent que vous êtes dans un cercueil.
Aidez-moi!
Je comprends que vous soyez exaspéré, monsieur.
Exaspéré? Attendez, je suis en train de crever, moi, là-dedans!
Il faut contenir la situation aussi longtemps que possible, vous comprenez?
Qu'est-ce qui se passe, là? Vous voulez en venir?
J'aurais aimé que ça se passe autrement.
Non! Non, 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 non!
C'était la bonne annonce du film Buried, un film de Rodrigo Cortés avec Ryan Reynolds qui se passe en temps réel pendant 90 minutes donc dans un cercueil. Vous l'aurez compris, aujourd'hui c'est de phobie dont il sera question en compagnie du docteur Dominique Desmichel. Dominique Desmichel, bonjour.
Bonjour Simon.
Alors nous allons parler des phobies. Vous nous aviez parlé dans une émission précédente justement de la taphophobie. Vous aviez un patient qui était atteint comment on appelle ça d'ailleurs, de ce syndrome. C'est une maladie. C'est quoi
de cette phobie.
De cette phobie. Voilà.
Tout simplement une phobie, hein, d'une peur quoi. Voilà. Oui, c'est un. Je me souviens très bien de ce monsieur. C'était déjà il y a fort longtemps. Et ce monsieur, son métier, c'était de travailler dans une entreprise de pompes funèbres.
Donc il avait
enterré beaucoup beaucoup de gens. Surtout que c'est à l'époque. On faisait essentiellement des inhumations, il n'y avait pas de crémation. Et ce monsieur, qui était un gros fumeur, a eu un cancer du poumon, et je l'ai accompagné à la fin de sa vie. Et je sentais vraiment qu'il y avait une espèce d'angoisse extrêmement, extrêmement importante. Et puis, à l'occasion, alors je n'arrive pas bien à me souvenir, mais à un moment, il a fait une espèce de petit lapsus. Je vois très bien la scène, mais je n'arrive pas à me rappeler ce dont il s'agissait. Et je lui ai dit, mais vous avez une peur particulière pour votre mort, le moment de votre mort, etc. Et il a dit, j'ai peur d'être enterré vivant. Hein, il faut se rappeler qu'à une certaine époque, il y a eu, pendant peut-être une dizaine d'années ou 20 ans, je ne sais pas exactement, une vraie peur dans la population française, à tel point qu'on faisait des cercueils avec des poignées à l'intérieur. Hein, voilà, quand il y avait 2 mètres de terre ou 1 mètre de terre au-dessus, je ne sais pas trop ce qu'on faisait, mais c'était comme ça. Il faut se rappeler quand même que l'idée du croque-mort, c'est ça, hein, le croque-mort, c'est celui qui croque le petit doigt du mort de manière extrêmement intense. Il faut rappeler que les masséters sont, proportionnellement à leur volume, les muscles les plus puissants du corps humain. Et s'il ne réagissait pas, il était vraiment considéré comme mort. Et cet homme, à partir du moment, il travaillait dans les pompes funèbres, à partir du moment, je lui ai dit, écoutez monsieur, je m'engage auprès de vous et auprès de votre femme qui est présente là, à tout faire pour bien vérifier que vous êtes mort, à attendre un nombre de jours un peu supérieur avant de vous enterrer. Il a été rassuré. Hein. Donc vous voyez, par rapport à l'émission de la semaine dernière où on se disait comment faire, lui, à partir d'une peur objective, c'est-à-dire objective pas vraiment réelle, hein, parce que les enterrés vivants, je ne suis pas sûr qu'il y en a eu beaucoup dans l'histoire de l'humanité.
Mais c'est peut-être arrivé, et nous allons voir justement que les phobies ont tout un objet réel à la base quand même,
voilà,
quelque part.
Toute une histoire, en
tout cas. Nous allons voir ça. Alors, docteur Dominique Desmichel, donc, la phobie, en quoi est-elle différente de la peur et de la paranoïa? Voilà mes premières questions.
Alors, on a vu ces trois mots, je ne vais pas y revenir, hein, peur, anxiété, angoisse. Peur, phobos, en grec, c'est la peur, avec souvent une réaction d'adaptation, c'est-à-dire un désir de fuite, un sentiment de panique avec, en général, les sécrétions de notre système nerveux sympathique. Le système nerveux sympathique fait fabriquer essentiellement de l'adrénaline, la noradrénaline, du cortisol aussi, ce qui nous permet d'être au maximum de nos capacités, en particulier pour courir ou pour sauter du premier étage ou d'un peu plus haut s'il y a les pompiers qui nous rattrapent dans un filet en bas. Voilà, la personne se sent sans recours face à ce danger. Elle peut être, au départ en tout cas, figée, inhibée, on pourrait dire médusée. Je crois qu'un peu plus tard, on reprendra d'ailleurs l'histoire de Méduse, parce qu'elle est quand même intéressante du côté des phobies. Incapable en tout cas d'avoir une attitude adaptée, voilà, ou en tout cas de manière, de manière adaptée au moment. Alors de temps en temps, c'est juste sur l'instant, puis en gros, on se ressaisit. Le système adrénergique se calme un petit peu et on a une situation adaptée. Et puis de temps en temps, non, et il y a quelque chose qui va durer, comme dans l'exemple que je donnais lors de la dernière émission, ou de temps en temps avec quelque chose qui dure, comme dans les phobies sociales, l'impossibilité d'aller faire ses courses, ou de tas d'autres éléments de ce type-là, où plein d'éléments peuvent être à l'origine de phobies. Donc à partir de ça, on distingue d'abord des objets qui sont phobogènes, on pourrait dire, des situations ou des personnes. Hein, c'est-à-dire ces trois parties peuvent être à l'origine d'une phobie. Les objets, ça peut être un couteau, une plume, un oiseau, un serpent, un rat, une araignée, comme vous l'évoquiez. Voilà, une situation. Ben, la situation, c'est celle que vous avez dite juste à l'instant et puis que relatait votre film. J'espère que notre émission ne passe pas trop tard le soir et ne va pas empêcher les gens de dormir. Mais ça peut être aussi le soir, la nuit, un bruit particulier. On sait bien, par exemple, que quand on entend un bruit inhabituel, on y reviendra avec la fonction de l'amygdale, notre cerveau l'analyse, il y a un petit scan, le bruit, s'il est reconnu, identifié, ça ne vient même pas à notre conscience, et au fond, on passe à autre chose.
Le bruit ou l'odeur, hein, très importante,
ou l'odeur.
La fameuse odeur du gaz.
Voilà, tout à fait. Et vous savez que le gaz est inodore et qu'on met un produit odorifère dedans, justement, pour signaler le danger. Et d'ailleurs, il y a des signaux qui sont d'une très grande efficacité. Là, on est dans le studio, c'est tranquille, il n'y a pas de bruit autour. Mais si tous les deux, on sent que ça sent le brûlé, par exemple, eh ben, on va arrêter l'émission. On ne va pas se dire, bon, on termine l'émission, il ne reste plus que 20 minutes ou 25 minutes, puis on ira voir après. Voilà, parce que ce signal va rencontrer un système de communication et un système d'alerte à l'intérieur de notre cerveau qui nous dit le danger est réel et on ne joue pas avec ça.
Alors là, c'est la peur que tout le monde éprouve.
Oui.
Mais la phobie, est-ce qu'elle a un caractère irrationnel quand même ?
Non, lorsque elle a ces trois composantes toujours, la dimension concrète. Je reviens aussi en élargissant, parce que par rapport à ce que vous disiez, les situations sont des situations qui sont très variables. Par exemple, il y a des gens qui ont très très peur d'aller à l'hôpital. Il y a des gens, j'ai une patiente que je suis actuellement, qui a une très très grande difficulté à prendre les transports en commun. C'est-à-dire c'est extrêmement coûteux, ce qui fait que là, on envisage actuellement, dans le travail qu'on fait ensemble, qu'elle puisse reprendre le travail. Mais la reprise du travail, c'est possible pour elle, mais reprendre le train, c'est quelque chose d'extrêmement...
C'est vrai que je dis que c'est irrationnel dans le sens où prendre un transport en commun, a priori, on a très peu de chances de... Enfin, ça peut arriver, mais c'est pas comme si on se retrouvait devant un lion, quoi.
Exactement. Alors, c'est ce que vous redisiez, le côté rationnel et irrationnel, oui. C'est-à-dire, il y a une dimension... irrationnel par rapport à une raison commune, à une raison universelle, qui est que, évidemment, il y a des gens qui ne supportent pas de prendre l'avion. Mais évidemment, il y a 3 ou 4 000 morts par an dans les accidents de voiture. Je crois qu'il y a 25 millions de morts par an dans les accidents de voiture sur la planète, hein, donc c'est quelque chose d'extrêmement important. Il doit y avoir moins de 30 morts par an dans les accidents d'avion. Hein, voilà. Donc il y a cette dimension que vous dites tout à fait irrationnelle. Mais, alors, il y a d'autres situations. Ça peut être se baigner dans la mer, aller à la piscine.
C'est pour ça que je disais, la liste est sans fin, finalement.
Oui.
Et est-ce que, docteur Dominique Michel, il faut faire aussi la différence entre deux personnes qui ont peur des araignées ? C'est pas la même peur non plus ? Ou alors est-ce qu'on peut l'englober sous la même étiquette ?
Oui, on peut l'englober sur la même étiquette, dans le sens où l'objet qui occasionne leur peur est le même.
Mais les ressentis n'est pas le même, et puis le...
Premièrement, le ressenti n'est pas le même, et puis pour répondre à votre question d'où est-ce que ça vient, comme ça, probablement ce qui est à l'origine de cette peur, c'est-à-dire de cette anxiété ou de cette angoisse qui s'est localisée, focalisée ou projetée dans les araignées, ou dans l'araignée, il y a quelque chose qui... Ce sont des origines radicalement différentes. Hein. Voilà, pour l'une, ça va représenter... Je vais faire vraiment dans la caricature, ça va lui rappeler, je ne sais pas trop quoi, un épisode de vacances où elle a été dans un gîte où il y avait des araignées partout et c'était vraiment, vraiment extrêmement pénible, jusqu'à le fait que l'araignée peut représenter très bien une composante maternelle terrifiante, envahissante. Vous voyez, on est pris dans la toile de l'araignée et plus on se débat, plus on est emprisonné. C'est-à-dire là où la composante psychique, avec cette dimension historique, est extrêmement prégnante. Vous voyez, hein, donc les situations, comme vous dites, sont très variées.
Alors, docteur Dominique Michel, je sais que nous l'avons évoqué la semaine dernière, mais j'aimerais que vous nous rappeliez cet exemple. Je ne sais pas si cette phobie a un nom, mais c'était la phobie du bruit de l'avion qui passe le mur du son. Parce qu'elle est tellement cas d'école que j'aimerais bien que vous nous la redisiez dans cette émission, justement sur les phobies, peut-être pour les auditeurs qui ne l'ont pas entendu la semaine dernière.
Oui, alors c'est l'histoire d'une patiente que j'ai accompagnée, c'était il y a fort longtemps. Et cette personne, lorsque un avion passait le mur du son, ça fait un bang. En général, tout le monde sursaute et puis deux secondes après, on a complètement oublié. Parfois, on se dit, tiens, il y a un avion qui est passé, ou parfois, on n'y pense pas. Voilà, ça, c'est tout à fait insignifiant. Pour elle, c'était extrêmement, extrêmement problématique. Elle avait des signes somatiques avec tout le cortège des stimulations qu'on dit adrénergiques du système nerveux sympathique dont je parlais, des sueurs, une pâleur, elle pouvait tomber dans les pommes, ça inquiétait beaucoup ses collègues. Voilà, tout un cortège. Et je viens à la fin de l'histoire. En fait, dans un travail de remémoration, de réexploration au fond de son espace mémoriel, de son grenier, eh bien, en fait, on a trouvé qu'il y avait une association entre deux choses. Premièrement, le fait qu'elle habitait à côté d'une base aérienne et qu'il y avait donc des avions qui, de temps en temps, passaient le mur du son. Mais surtout la mort brutale de son père. Et cette mort de son père avait été extrêmement peu parlée pour des raisons complexes que je ne vais pas détailler ici. Voilà. Donc il y avait un espace complètement clos qui était autour de la mort de son père, et il y avait cette espèce de petit élément, voilà, comme vous voyez, une sorte de petit marqueur qui lui rappelait un événement massif, très traumatisant pour elle. Voilà. Et à partir du moment où elle a pu se rappeler de cet événement et le retravailler, eh bien, la peur des bangs a complètement disparu. L'important, ce n'était pas qu'elle ait plus peur des bangs d'avion, parce que ça, quand même, elle avait pu arriver à un petit peu faire avec, mais c'était retravailler son histoire et se réapproprier un champ mémoriel que, pour l'instant, elle avait exclu, hein, ou qui avait été exclu.
Docteur Dominique Demichel, une question comme ça. Est-ce qu'il existe des phobies collectives qui sont partagées par tout un groupe de personnes ?
Oui, il y a des phobies un petit peu universelles. On pourrait dire pas énormément de gens adorent les serpents, par exemple. Hein, voyez, alors voilà. Alors il y a une dimension probablement culturelle. Qu'est-ce que je pourrais dire, par exemple? Prenons une figure certes imaginaire, mais qui quand même peuple notre pensée collective, qui est la figure du dragon. La figure de dragon dans l'Occident, c'est une figure plutôt négative. Mais en Orient, le dragon, c'est une figure positive, vous voyez. Hein, donc, nous, si on a un dragon, une figure de dragon ou de diable, ou des choses comme ça, c'est une figure terrifiante. Donc, il y a une dimension culturelle. Et puis, vous évoquiez la dernière fois la peur des terroristes. On a parlé de la xénophobie. Hein.
Ah, on va y venir, justement, à la xénophobie.
Voilà. Oui. Voilà. Là aussi, il y a une peur de l'autre. Ouais. Et cette autre-là, eh bien, il a une composante culturelle. Hein.
Bien sûr.
L'histoire est remplie de ça.
Oui, alors ma question, justement, sur la xénophobie, docteur Dominique Demichel, est la suivante. Xénophobie, on est dans la pathologie, comme on vient de le décrire maintenant, et pourtant, dans le langage courant, eh bien, on l'associe très volontiers au racisme ou à l'antisémitisme, xénophobe. Tout ça, on en fait quelque chose de commun, qui est simplement soit une haine, soit une peur des autres. Mais je voudrais qu'on insiste sur le caractère phobique. Est-ce que, véritablement, on peut avoir, de manière pathologique, une phobie de l'autre, de l'étranger ?
Je ne pense pas qu'il y ait des raisons légitimes à avoir peur d'un étranger. Si on compare, par exemple, une maison qui est en train de brûler, si vous n'avez pas peur alors que vous êtes à 50 cm de la maison qui brûle, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc là, on n'est pas dans une phobie pathologique. C'est une réaction d'adaptation par rapport à un danger. Voilà. Si vous avez une avalanche que vous voyez qui se dirige vers vous, il y a intérêt quand même à courir le plus vite possible pour essayer de l'éviter. Par rapport à l'étranger, il n'y a aucune raison objective à avoir ça. Hein. L'idée de l'étranger, c'est qu'il est associé à une peur qui nous appartient. Voilà. Le même que soi, c'est-à-dire si je vois celui d'en face comme le même que moi, il n'est pas pour autant rassurant. Si je vois l'autre comme étant étranger à moi-même, il n'est pas pour autant inquiétant. C'est deux choses qui sont radicalement différentes. Il y a des gens qui sont... Que nous percevons comme plutôt familiers et qui vont se révéler comme étant des dangers pour nous, objectifs. Et puis l'inverse est tout aussi vrai. Hein. Donc je pense que la peur de l'autre, la peur de l'étranger en particulier, c'est une peur qui est construite. Ça n'a rien d'une peur objective.
Oui, voilà. Mais... Alors la peur, justement, la xénophobie, elle peut être mélangée, par exemple, au racisme. Le
racisme, c'est une généralisation de la peur de l'étranger. Hein. Xéno, ça veut dire autre. Hein, voilà, comme on dit, par exemple, une xénogreffe. Hein, vous savez, quand on a, par exemple, une valve aortique dans le cœur qui est défectueuse, on a deux possibilités pour la réparer. Ou on met une valve de porc, ou on met une valve mécanique. La valve de porc a l'avantage d'être très bien tolérée. On est très proche des cochons, nous, ça dure 10-15 ans. La valve mécanique a d'autres contraintes, mais elle dure plus longtemps. Là, ça, on appelle ça une xénogreffe. Vous voyez, xéno, ça veut dire c'est une greffe, mais d'une autre race que la nôtre, enfin un autre animal que nous-mêmes.
Ce que je veux dire, dans le problème...
Donc dans le racisme, il y a une généralisation.
Oui, mais le résultat peut être le même. C'est ça que ce qu'on voit peut être la même chose, c'est-à-dire la haine de l'autre, qui peut être donc du coup culturelle ou par intérêt, parce que je pense au colonialisme, on avait intérêt justement à soit à haïr, soit en tout cas à profiter de l'autre, et puis à en faire un étranger qu'on ne pouvait pas aborder. Et par contre... Peut-il y avoir de la xénophobie qui vienne, comme nous en avons parlé, de quelque chose de très personnel, d'un drame de l'enfance, qui fait que, justement, même si le résultat est le même, l'origine, vous comprenez, peut être très différente.
Alors, il y a plein de choses que ça évoque dans votre question. Je vais essayer de trier un petit peu tout ça. J'aurais tendance à penser que les pays qui ont été des pays esclavagistes, hein, dont il faut se rappeler que l'Europe n'est pas en odeur de sainteté. Hein, voilà, il n'y a pas que simplement l'Amérique du Nord qui a pratiqué l'esclavagisme. Je ne pense pas que c'était essentiellement et uniquement pour des raisons d'opportunité, en gros, avoir une manœuvre bon marché. Non, je pense qu'il y avait quelque chose de beaucoup, beaucoup plus profond, beaucoup plus... appartenant au fond là à un inconscient collectif où s'est projeté sur la figure, en l'occurrence du noir, la figure du mauvais, la figure du diable, la figure de l'autre menaçant. Voilà. Et ça n'a rien à voir avec la couleur de la peau, bien évidemment. Ça n'a rien à voir avec la notion de race, puisque la notion de race n'existe pas en soi. Il y a des différences de couleur de peau, comme il y a des différences de couleur d'yeux, comme il y a des différences de taille ou de je sais pas trop quoi, ou de morphologie, c'est tout. Donc vous voyez, là, on peut vraiment penser, je n'ai pas de compétences là-dessus, mais ça serait tout à fait intéressant, qu'appartenait à l'ombre de l'inconscient culturel collectif de l'Europe quelque chose de tout à fait terrifiant, et que cette ombre sombre, voilà, a été projeté sur la figure du noir. Hein. Donc j'aurais tendance en tout cas à penser que c'est ça. Et que c'était vrai ici collectivement dans le cadre du colonialisme, et c'était vrai, et c'est vrai individuellement. J'ai appris hier, par exemple, vous connaissez le livre d'Agatha Christie, Les Dix Petits Nègres, et il paraît que l'arrière-petit-fils d'Agatha Christie a demandé que le titre soit changé. Voilà. Alors, on voit bien dans quelle perspective, peut-être du politiquement correct, c'est fait, et il paraît que ça va s'appeler « Ils étaient 10 ». Alors, on voit bien, vous voyez, qu'il peut y avoir une espèce d'amalgame. Je ne sais pas trop ce qui se passait dans la tête d'Agatha Christie. Je ne crois pas qu'elle était particulièrement raciste. Mais encore que, peut-être, il y avait quelque chose. Mais on peut tout à fait s'interroger en se disant, tiens, pourquoi Agatha Christie a appelé tout ce groupe de collectifs hein, réunis dans une île et puis ils meurent tous les uns après les autres. Pourquoi elle les a appelés des nègres hein? Donc, il y a une dimension personnelle, il y a une dimension collective. Il y a une dimension transpersonnelle, il y a une dimension probablement internationale. Hein.
Et la xénophobie qui serait personnelle alors, qui serait liée justement de la même manière que l'araignée ou que le serpent à un drame de l'enfance parce que eh bien, j'ai été frappé petit par un vert ou par un bleu. Voilà. Du coup, je ne le supporterai pas.
Voilà.
Alors, ça existe aussi, ça.
Oui, je pense que c'est toujours ça. Hein. Alors, de temps en temps, ça peut être un héritage d'histoire. C'est-à-dire, de temps en temps, j'ai peur des verts ou des bleus. On va dire les bleus parce que les verts, ça peut être associé à autre chose. Mais j'ai peur des bleus parce que mon père lui-même avait peur des bleus et mon grand-père avait aussi peur des bleus hein, ou des oranges ou autre chose. Donc, il peut y avoir une sorte d'héritage culturel. Mais je pense qu'il y a une dimension. Au fond, avoir peur des serpents, c'est plus répandu. Et on pourrait dire la composante objective est peut-être un petit peu plus compréhensible. Mais c'est de même nature que la peur du vert, du bleu ou de l'orange. Il y a toujours une dimension culturelle qui dépasse et qui, de temps en temps, écrase les sensibilités individuelles. Et il y a toujours une dimension personnelle où ça rejoint quelque chose de notre histoire. Je vous donne un exemple très, très précis. Moi, j'aime beaucoup l'Afrique noire. J'y suis allé avant mes études. Enfin, au tout début de mes études de médecine, et ensuite j'ai fait mon service militaire dans l'Afrique noire, et j'aime beaucoup l'Afrique noire. Je me souviens très très bien la première fois où je suis arrivé à N'Djamena, qui s'appelait Fort Lamy encore à l'époque, et j'arrive dans l'aéroport, et il y avait des Noirs partout. Et je me souviens de cette image, j'ai été saisi. J'ai pas eu de peur particulière, mais j'ai été saisi. J'ai été saisi par quoi ? Dans le fait que j'arrivais dans un territoire où il y avait des autres. C'était pas les mêmes que moi, j'arrivais des autres. Donc vous voyez, il y a ce sentiment-là. On en fait une phobie à partir du moment où il va y avoir des conséquences qui vont être gênantes, délétères, voire extrêmement handicapantes à l'intérieur de soi-même. Sinon, avoir peur, ça fait partie de l'existence.
Alors la phobie, nous l'avons vu, c'est une maladie. C'est une maladie qui a des origines physiologiques. C'est l'amygdale, me semble-t-il. On en a déjà parlé, mais peut-être y revenir.
Juste avant qu'on revienne sur l'amygdale, je reviens sur quelque chose qui est très particulier puisque vous parliez de maladie. C'est la notion de névrose phobique. Hein. La névrose phobique, c'est pas simplement dans le sens courant du terme, on pourrait dire ouais, on est tous des névrosés, ce qui est vrai. C'est-à-dire au fond, on tient à l'intérieur de nous-mêmes l'idée d'un conflit entre le bien et le mal, entre le blanc et le noir, etc. La névrose phobique, dans le sens psychique ou dans le sens psychiatrique du terme, ce sont des gens qui ont des conduites rituelles qui vont être extrêmement, extrêmement handicapantes. Hein, c'est-à-dire qu'ils vont se laver les mains tout le temps, qu'ils vont avoir peur des microbes au point de ne pas pouvoir sortir, qu'ils vont avoir peur des lieux de soins, qu'ils ne vont pas pouvoir du tout aller chez le dentiste et qu'ils ne vont jamais de leur vie aller chez le dentiste avec les conséquences que ça peut... Voilà. Les vraies névroses phobiques, ça se rapproche beaucoup, beaucoup plus de la psychose. Hein, voilà. Donc ce sont les vraies névroses phobiques, ce sont des pathologies extrêmement, extrêmement graves et pour lequel les thérapeutiques médicamenteuses, comportementales ou même psychanalytiques sont en général pas très, très, très efficaces.
Oui, je vous posais la question, docteur Dominique Desmichel, de la source justement de ces phobies dans notre cerveau.
Oui.
L'amygdale en est la cause. Et vous allez pouvoir peut-être nous rappeler en quelques mots le mécanisme.
Oui.
Et puis surtout, comment on fait pour le soigner ? Comment on travaille dessus ?
Ça, on reprendra peut-être ça la prochaine fois. L'amygdale, c'est une petite structure cérébrale. On en a une à gauche, une à droite. Et elle contient essentiellement notre mémoire émotionnelle. Notre mémoire émotionnelle inscrite dans notre grenier est en grande partie inconsciente. Hein. Voilà, toutes nos peurs, mais aussi nos paniques, toutes nos émotions aussi, nos joies d'ailleurs, même nos grandes rencontres amoureuses, nos grands élans quand on était adolescent ou plus tard, nos souvenirs de peur, en particulier en tout cas quand nous étions enfants, laissent une empreinte durable. C'est bien, bien important de se dire que ce mécanisme est fondamental à la survie. Tout élément vivant a trois objectifs. Manger, ne pas être mangé et se reproduire. En gros, c'est ça. Voilà, c'est tout. Il faut manger parce qu'autrement, on meurt de faim. Il ne faut pas être mangé parce que, évidemment, l'histoire s'arrête là. Et troisièmement, il faut se reproduire. Voilà, c'est vrai pour les virus. C'est pour ça que les virus, il ne faut pas qu'ils tuent tous leurs hôtes parce qu'autrement, c'est un peu ennuyeux, ils vont mourir. C'est vrai pour les bactéries, c'est vrai pour les êtres unicellulaires, pluricellulaires, et c'est vrai pour jusqu'aux mammifères. Hein. Voilà. Donc ça, c'est très, très important. Donc, s'engrange à l'intérieur de nous-mêmes des tas et des tas d'expériences. L'enfant, on ne voit plus ça maintenant, mais l'enfant qui, la première fois, met sa main sur une porte de four brûlante, il enlève vite sa main et il retient, parce que c'est très douloureux. Et dans son amygdale, il y a l'idée, ça ressemble à un four, je fais très attention. Pareil avec la flamme d'une bougie. Hein. Au fond, il s'approche, il va se brûler et il va retenir. Donc, cette amygdale a une puissance extraordinaire et elle a une fonction de survie. Voilà, quelqu'un qui n'aurait pas d'amygdale, il retiendrait pas que s'amuser à traverser le périphérique les yeux fermés quand tes voitures sont toutes à 70, c'est un petit peu dangereux. Il retiendrait pas ça et donc il vivrait pas très très longtemps. Donc c'est tout à fait important. Les souvenirs négatifs y sont inscrits, ainsi que les positifs. Et en tant qu'événement, en tant qu'image, en tant qu'autre souvenir, c'est vous qui évoquiez les odeurs, je crois, voilà, les gens qui aiment bien le chocolat, j'en suis. Les odeurs de chocolat, c'est pas indifférent. Là aussi, notre amygdale nous renvoie à quelque chose. Et au fond, on pourrait dire, c'est une image, hein, parce que c'est pas une explication, que l'enfant qui a peur, c'est un enfant qui n'arrive pas à calmer son amygdale. Il a ses petites amygdales là, qui sont les amygdales cérébrales, parce qu'il y a des amygdales dans le cervelet aussi. Et puis il y a des amygdales au fond de la gorge. Hein. Voilà, amygdale, ça veut dire petite amande. C'est parce que ça a la forme d'une amande. Voilà, les amygdales qu'on a, en tout cas dans le cerveau, sont là comme un petit voyant rouge, hein, et dit à l'enfant, tuc, 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 danger. Hein. Donc si lui, il n'a pas, on va dire pour donner un exemple, s'il n'a pas une bonne mère veilleuse à l'intérieur de lui-même, hein, une bonne instance maternelle, maternelle, pas que du côté de la maman, ça peut être du côté du papa, du grand frère, de la grande sœur, etc., de la tante, de la nourrice, etc., qui veille sur lui, son amygdale est là et le maintient en éveil. Et il ne peut pas s'endormir.
Alors, pour revenir, docteur Dominique Desmichel, à nos phobies, je prends par exemple le vertige. Moi, je peux avoir le vertige et pourtant, dans mon enfance, ben, je ne suis jamais tombé de mon lit ou j'ai pas. Ça semble venir d'encore plus loin. Elle a peut-être quoi, une vraie déficience
C'est compliqué. C'est compliqué. Et puis, dans l'origine des phobies, de temps en temps, on ne trouve rien du tout. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien, mais que le quelque chose, d'abord, n'est pas toujours du côté de l'événement. De temps en temps, c'est une association complexe que nous ne sommes pas capables de déchiffrer. Et puis, je vous rappelle aussi que ce qui va être le plus souvent thérapeutique, c'est le récit, c'est la construction. Et de temps en temps, on fait une construction contraphobique. Et cette construction contraphobique, elle arrive à contenir la peur. Mais on pourrait dire l'objet phobique, il peut être toujours là. L'événement phobique, le souvenir qui a été à l'origine de cette phobie est toujours là. Simplement, on a construit autour un système contraphobique qui fonctionne. Et puis voilà, et puis la vie continue après.
Et la vie continue, et notre émission continue la semaine prochaine. Docteur Dominique Desmichel, un grand merci et à très bientôt.
Merci Simon, au revoir. Meat on my bone.